Donc de retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Richard Mebaoudj, le président et porte-parole de l'association Non au gratte-ciel de Toulouse. Donc on va développer les critiques principales évidemment sur cette tour. Alors la première qui me semble plus évidente pour moi, c'est évidemment l'impact environnemental. Donc on nous vend une façade végétalisée. On est vraiment dans le greenwashing là plus plus.
C'est du pipeau. C'est pire que du greenwashing, c'est du pipeau.
Donc on a une tour végétale avec un mouvement de spirale et avec un jardin organisé en spirale qui se termine en haut par un jardin public accessible à tous.
La structure, elle est censée être en béton et en verre. Évidemment, c'est particulièrement énergivore et contraire aux impératifs de sobriété environnementale, beaucoup d'émissions de CO2. On va parler un petit peu là du verre aussi, la matière, le verre.
Nous sommes une fédération de protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie et que nous sommes là face à un projet d'immeuble de 150 mètres de haut qui pour nous pose tous les problèmes environnementaux des constructions que nous ne voulons pas voir. Quand on construit une tour de 150 mètres de haut comme ça, tout en verre, il y a déjà des questions importantes qui se posent sur la consommation énergétique du bâtiment dans un contexte de réchauffement climatique que nous connaissons. On parle aujourd'hui des îlots de chaleur et du fait que les constructions ne doivent pas contribuer à augmenter la chaleur en ville. Comme ça, tout en verre pose des gros problèmes et pose des problèmes donc sur la manière de les chauffer, sur la manière de les refroidir lors des canicules. Elle pose des problèmes sur l'utilisation de l'eau qu'il va y avoir, donc l'eau potable à la fois pour tous les usages qu'il y aura dans le bâtiment, mais aussi la tour nous est présentée comme devant accueillir de la végétation, presque des arbres qui pousseraient sur la façade. Alors déjà, on ne sait pas exactement comment des arbres peuvent pousser sur une façade, mais ils vont consommer de l'eau. Par ailleurs, ils vont poser des vrais problèmes, c'est un des points qui est soulevé, c'est qu'il n'y a pas d'étude du risque que représenteraient des vents violents qui pourraient éventuellement emporter des parties de végétaux au-delà, et donc qui retomberaient où ? Ici, dans la rue Bayard où nous sommes, sur les allées Jean Jaurès. Donc clairement, cette construction, qui est vraiment loin d'être anodine, appelle une considération toute particulière et qui là n'est clairement pas faite dans le cadre du permis de construire qui a été autorisé.
Pour commencer sur l'environnement en fait.
Oui, ça saute aux yeux. La base de la réflexion, c'est que vous ne pouvez pas faire un bâtiment à énergie positive qui soit plus d'une cinquantaine de mètres. Techniquement, pour l'instant, on ne sait pas faire. Hein. Donc si vous faites quelque chose de 150 mètres, à ce niveau-là, c'est quelque chose d'énergivore, de polluant, de très cher. Si encore ça avait vraiment une utilité sociale, que sais-je, moi, c'est vraiment du gaspillage absolu. En plus, bon, alors on nous parle, les arbres dans la tour, c'est un argument qui était très efficace. Hein. Il y a eu deux arguments, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Hein.
Que c'est joli en plus.
Oui.
L'image en synthèse, là.
Ah, elles sont jolies, oui, joli. Mais bon, elles sont en synthèse. Hein, donc... Et puis elles sont pas réalistes. Alors on peut même pas parler de douche froide, c'est l'anti-douche froide, puisque quand même, depuis que c'est une autre plaie d'Égypte dont on n'a pas parlé avant, c'est pas tous les étés, mais la fréquence s'accélère, c'est les canicules.
Bien sûr.
Donc vous imaginez, il s'agit de mettre des arbustes en pot, ils n'ont pas encore fait les arbitrages sur l'arrosage, ils savent même pas si des alpinistes, jardiniers qui s'occuperont de ça. Bon, à Toulouse, ça ne devrait pas poser de problème puisqu'on ne manque pas d'alpinistes. Il n'y a pas de récupération d'eau. Et non seulement c'est énergivore, mais c'est consommateur d'eau, quoi. Déjà, d'eau intrinsèquement, dès qu'on fait du béton, c'est de l'eau, hein, même
bien
de la
sûr.
Brique.
Mmh.
Vous parliez de la brique de Babel, là, il fallait de la flotte. Donc voilà, c'est un scandale environnemental, c'est plus du tout adapté. On n'a pas d'excuses pour lancer des projets de ce style qui sont des usines à gaz, ouais, quoi. Et puis en plus, c'est un îlot de chaleur en plein centre de Toulouse, dans une ville. Toulouse, c'est la grande ville qui a été la plus chaude. On parle de grande ville. Hein. Mmh. On atteignait du 46-50 degrés ressenti, quoi, en centre-ville. Hein.
Et pour rebondir sur l'absurdité écologique, l'utilisation du verre à l'extérieur n'est devenue possible qu'avec le progrès de la technologie de la climatisation et l'accès à une énergie abondante et bon marché au milieu du XXe siècle. Des études montrent qu'en moyenne, les émissions de carbone des bureaux climatisés sont 60% plus élevées que celles des bureaux ventilés naturellement ou mécaniquement.
Ah bah oui, c'est l'évidence. Et là, c'est climatisation à tous les étages.
Ah, obligatoirement.
Donc, c'est... Alors, d'une part, c'est pas plaisant hein, pour les gens qui y vivent. Hein, c'est un... qui travaille.
Et puis cette histoire aussi de végétalisation, donc ça implique aussi de l'utilisation d'eau potable, c'est quand même...
Oui, parce que pour l'instant, ils ont pas prévu de... Il n'y a pas de dispositif de récupération dans le canal. Et d'ailleurs même l'eau du canal du Midi, elle est précieuse, hein, je pense que... Ouais. Certains étés, c'est pas... Donc,
Et j'ai lu, c'était pas justement un angle d'attaque, ça, l'étude sur l'eau, dans le cadre de la loi sur l'eau?
Alors, la loi sur l'eau, on en a parlé dans l'attaque sur le permis de construire. Hein, ça fait partie de ça, parce que on l'a évoqué, parce que au niveau de l'eau, c'est un et du sous-sol, puis c'est lié. Pas trouvé pire endroit, quoi. Hein, c'est peut-être en Amazonie, hein, c'est possible. C'est un, mais vous avez le canal du Midi, vous avez donc des nappes phréatiques, vous avez la colline alluvionnaire qui, quand il pleut, de Jolimont. Il y a l'eau qui arrive.
Dans le quartier de la gare Matabiau, la nappe phréatique se retrouve assez haut, donc à 2 mètres sous le niveau du sol, donc c'est assez haut. Le fait de construire une tour de cette hauteur à cet endroit-là, avec les fondations qu'elle va nécessiter, va créer un effet de barrage en fait, dans le sol, donc dans la nappe phréatique. Et donc ça veut dire que la nappe phréatique va monter à cet endroit-là encore, et donc dès qu'il pleuvra beaucoup, comme c'est le cas en ce moment par exemple, le risque est que du coup la nappe déborde à fleur et qu'on aille vers des inondations par exemple. C'est un point qui a été identifié dans l'étude d'impact, mais rapidement. C'est par l'autorité environnementale, lors de l'enquête publique, et auquel, de nouveau, le projet n'apporte pas de réponse et ne nous dit pas comment il va faire pour essayer d'éviter ce problème de montée de la nappe et ou de solutions ayant bien pris en compte ce problème. Donc ce problème-là, comme les autres, est balayé quelque part à des solutions qui viendraient plus tard.
Et en plus, dans les documents officiels, alors on touche du bois, on ne pense pas forcément qu'il y a un barrage, la République française est bien organisée, il y a un document qui concerne l'éventuel... délestage ou démolition du barrage et le point de débordement se passe à Matabiau. Donc ça, c'est un document officiel hein, qu'on a ressorti.
Dans le cas d'une éventuelle rupture du barrage de la Ganguise qui est dans l'Aude, qui aurait pour effet de faire augmenter le niveau de l'eau du canal du Midi, il se trouve que le plan de sécurité prévoit que l'eau puisse se déverser précisément à l'endroit où aujourd'hui il n'y a pas de bâtiment, et pour aller vers les rails en fait de la gare, et que la construction de ce bâtiment vient se mettre précisément à cet endroit où l'eau pourrait se déverser. Donc de fait, la construction d'un immeuble comme ça empêcherait l'eau du canal du Midi de se déverser de cet endroit-là. Et donc on peut se dire que du coup elle devrait se déverser ailleurs, mais tout ça n'est pas considéré. Et donc là on a un point de sécurité d'un dispositif en cas d'inondation qui est tout simplement ignoré par cette construction et ce permis de construire.
Alors sur la loi sur l'eau, le promoteur, il avait le choix. Soit il faisait son étude et il la joignait au permis de construire, soit il la faisait plus tard avant la déclaration du chantier. Il a pris la solution de facilité. Pour l'instant, il a demandé le permis sans faire l'étude de la loi sur l'eau. Mais là, justement, ça fait partie de l'entre-deux dont on parlait. Maintenant, il va bien être obligé, s'il veut vraiment lancer son projet, il va bien être obligé de lancer son étude sur l'eau, quoi.
L'un des risques aussi de ce chantier est lié au passage du métro, de la troisième ligne, avec Tisséo, qui a demandé au promoteur donc, de refaire les études du sol. Du fait de l'inversion du calendrier avec les travaux, c'est aussi un risque potentiel de construire une tour aussi haute sur...
Alors, oui, le permis de construire, c'est très clair. Hein. Il y a encore un sujet d'ombre. Hein. On ne sait pas trop, on ne s'avance pas trop là-dessus parce qu'on fait...
Pas les ombres portées, là, mais...
Oui, il y a un sujet qui n'est pas très... Pour tout vous dire, on est en consultation à Paris hein, là-dessus avec un avocat parisien, parce que le permis de construire actuel, il spécifie que la tour Occitanie est construite quand le tunnel de la ligne C arrivera. Je rappelle à tout le monde qu'il y a déjà la ligne A sous le projet immobilier, qui existe, hein, qui est réel, doit se rajouter la ligne C. Mais le permis indiquait que la tour devait être construite avant la ligne C.
C'est pas le cas.
Donc justement, il y a quand même on est dans une zone grise juridique. On se développe pas parce qu'on n'est pas sûr de notre coup, hein, mais il se peut que le permis soit un peu fragile. En tout cas, ça a des incidences techniques puisque ça n'a pas échappé à Tisséo qui a quand même la charge d'âme hein, dans cette histoire hein, et des voyageurs de la ligne A et des employés qui des personnels qui vont travailler pour l'aménagement de la ligne C. Ils ont demandé une nouvelle étude des sols. Donc voilà, ça fait partie de l'entre... En gros, l'entre-deux, c'est l'étude de marché, l'étude des sols et l'étude de l'eau, quoi.
Et les zones grises.
Des recours, on en a déposé deux, avec, si on compte les appels, ça fait quatre, plus Conseil d'État, on en a déposé six. Donc on a toujours veillé à ce qu'ils soient étayés, quoi. Hein. Donc, et nos dossiers sont absolument énormes. Donc on continuera dans cette même veine. Il est évident que si jamais il y avait un permis modificatif sur la couleur de la moquette, on n'irait pas attaquer. Le gratte-ciel nous est tombé sur la tête. Ouais. Donc du coup, en 2017, je ne connaissais strictement rien dans ce domaine. Hein. C'est le permis modificatif, en droit, c'est un domaine, c'est une zone grise. Le permis modificatif n'est pas géré par des lois. Il est géré par la jurisprudence. Donc déjà, en soi, pour ceux qui aiment s'amuser avec les histoires juridiques, là, ils ont de quoi faire. Hein. Donc il n'y a pas des lois qui disent « ça marche comme ci et comme ça », c'est de la jurisprudence. Donc on est dans un domaine un peu, c'est un peu une sorte de Far West, pour être plus positif, comment on dit, un travail, un work in progress. Hein. On va devenir spécialiste du permis modificatif, en faisant du permis modificatif, voilà, en recourant, ouais. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on va toujours être avec le conseil de nos avocates. Vous voyez, c'est un domaine d'exploration. Ah ouais.
Vous créez vous-même une jurisprudence, en fait, pour pouvoir...
Éventuellement, oui. Oui, ça marche comme ça. Tout ce qui est autour du permis modificatif, vous ne pouvez pas dire telle loi. Alors, ce qui est important quand même pour les auditeurs, c'est qu'un permis modificatif, il ne porte que sur le chantier, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, on rentre plus dans la bataille en disant « oui, mais vous êtes pas, votre projet n'est pas cohérent avec telle loi ou avec telle... » Là, on est dans les vis propres du projet, c'est-à-dire qu'on est vraiment au ras des pâquerettes, quoi. Donc, du terrain et du chantier.
Alors, je prends la balle au bon là, avec les pâquerettes. Un des arguments, c'est l'impact architectural et paysager. Voilà, vous dénoncez une atteinte à l'intégrité du canal du Midi qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO et ce serait une rupture esthétique dans le paysage historique.
Oui, tout à fait, oui. Oui, bah c'est il suffit déjà par rapport à la gare qui vient d'être rénovée, là, la gare du 19e siècle. On est quand même dans un secteur où les hauteurs n'étaient pas très, très grandes, hein, mis à part vers les allées Jean Jaurès. Oui, c'est un truc qui écrase tout. Le gratte-ciel écrase tout. Il écrase même la nouvelle halle, hein, qui architecturellement, il y a une petite recherche. On se demande pourquoi. Alors, soi-disant, pour donner un signal au monde, hein, c'est ce qu'a dit.
En toute modestie.
c'est ce qu'a dit le maire, hein, un signal de dynamisme, alors que. Bon, Toulouse est dynamique, je crois que beaucoup de gens se plaignent même d'un excès de dynamisme économique, du coup on a des bouchons.
Le maire, il souhaitait un dialogue avec le canal du Midi.
Le canal du Midi est un bien classé à l'UNESCO, c'est un bien naturel. Le canal est bordé d'arbres, de platanes, et la tour va être implantée à côté du canal. Donc le canal va couler au pied de la tour. Évidemment, il était inconcevable pour nous d'envisager un projet urbain aussi moderne sans organiser une sorte de dialogue entre le canal du XVIIe siècle et la tour du XXIe siècle. Tout cela en dialogue, je dirais, végétal avec le canal du Midi.
Un dialogue ? Puisqu'il ne dialogue pas avec nous.
Choisis ses interlocuteurs.
Bon, personne n'est contre ce dialogue. Hein. Il n'y a personne qui va mettre une pancarte non au dialogue avec le canal du Midi. Par contre, d'un autre côté... Il disait ça sera le cœur du quartier d'affaires. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Toulousains qui veulent vraiment un quartier d'affaires, parce que quartier d'affaires, c'est ça fait monter les prix, c'est pas très vivant.
On ne se sent pas concerné, de toute façon.
On ne se sent pas concerné. Et puis en plus, ça perd de sa justification. Donc le quartier d'affaires, en plus, avec le numérique, il a perdu un peu sa raison d'être. Quoi. Mm-hmm. Je ne sais pas, moi, arracher les gens à leur vie, comme il a fait Avenue de Lyon, puisqu'il y a des gens qui ont été exilés. Hein. Je connais des gens pour qui c'est un drame. Hein.
Rue du Maroc.
Rue du Maroc. Il y a des gens qui avaient des maisons qui avaient été construites par leur grand-père, qui travaillait à la SNCF, hein, d'ailleurs. Le centre-ville de Toulouse a une riche histoire, puisque mettre comme ça une espèce de mastodonte pour c'est une sorte de tsunami architectural, quoi. C'est un... L'urbanisme c'est implique toujours le changement, mais dans une espèce de reconstruction. Il ne faut pas accélérer les choses.
Et justement, ce changement, c'est aussi... l'exclusion, en tout cas la mise à distance de toute une partie de la population, comme tu l'as évoqué. Je te fais écouter un son que j'ai pris sur ton site et qui parle justement de l'absence de mixité sociale.
Ce qui nous choque, c'est qu'il y ait une loi spécifique pour un projet qui a un statut différent des autres, sous prétexte qu'on va construire un hôtel de luxe, des appartements de luxe, un hôtel Hilton 4 étoiles, je crois, des bureaux pour des sièges sociaux prestigieux. Eh bien, on devrait changer la loi et exemptés de construction de logements sociaux, exemptés d'obligation de construction de stationnement pour les vélos, ce bâtiment.
Autour de la gare, sur 135 hectares, 80 000 personnes sont concernées par les aménagements. Un collectif s'oppose à la construction de la tour, car la seule annonce du projet a eu des effets sur l'habitat.
Notre inquiétude, c'est que d'une part, il y a de la spéculation immobilière, parce qu'en général, c'est ce qui arrive, hein, que les loyers, qu'il y ait la hausse des loyers. Donc pour une grande partie de la population ici, qui est de modeste, hein, on va dire, hein, qui est populaire, c'est un problème.
La tour Occitanie est un projet développé par l'architecte américain qui a reconstruit sur les décombres du World Trade Center 150 mètres de haut, 40 étages et des logements de haut standing. À la mairie, on récuse les accusations de boboïsation du quartier.
Donc voilà, donc ça souligne les disparités économiques accrues. Le projet semble avant tout conçu pour profiter à des intérêts privés sans prendre en compte l'intérêt général des Toulousains.
C'est l'exemple typique. Hein, ouais. On n'a eu que des lois d'exception, en quelque sorte. Ouais. Hein, ça va même plus loin, ça va même vers des exemptions fiscales. Par exemple, à cause des délais, tout ça, c'est pour ça qu'ils ont fait très vite. Si jamais le projet se fait, alors qu'ils seront les bénéficiaires de la LGV, ils ne paieront pas la taxe LGV.
Alors restons justement sur cet aspect financier avec la spéculation immobilière, puisque mécaniquement, ça va entraîner des hausses des prix de l'immobilier.
Déjà, c'est une politique générale, hein, à Toulouse. Ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut requalifier les quartiers, ce qui veut dire en gros augmenter les prix des bâtiments, donc des loyers. Hein, donc ça correspond quand même à un certain électorat. Tous les gens qui ont des biens immobiliers, ils ne pensent qu'à l'augmentation de la plus-value. Hein, donc ça, c'est déjà une politique générale sur Toulouse qui sera accentuée précisément dans ce quartier. Quoi, hein, donc.
Alors je cite Éric Payot, le vice-président de la compagnie de Phalsbourg. On fera partie de l'immobilier le plus cher de Toulouse, il assume. On sera dans la fourchette des 10 à 12 000 euros le mètre carré. Ce sera une opération où l'immobilier sera cher car les charges seront lourdes. Il y a une réglementation pour ce type d'immeuble qui génère des charges élevées. Y aura-t-il 120 foyers toulousains pour acheter à ce prix-là? Sans doute pas. C'est toujours Éric Payot qui le reconnaît. Mais nous avons une autre vision. Nous avons des fonds d'investissement, souvent germaniques, qui investissent dans l'immobilier, puis mettent ces biens sur le marché de la location pour les louer à des entreprises qui logent leurs cadres de passage. On connaît ça sur Paris et cela permet de répondre à une demande précise. La cible de cette clientèle est exigeante. Elle a l'habitude de vivre dans ce type de tour à l'étranger. Donc, une nouvelle fois, on est sur de la spéculation... Mais même, tu parles d'esprit de quartier, donc là, on fait venir des gens qui vivent sur leur lieu de travail, qui n'ont absolument aucun lien avec, évidemment,
la
ville.
Résonne avec le phénomène Airbnb. Hein,
complètement.
Je ne prétends pas être un spécialiste de la location de luxe pour...
ton CV.
Pour les... Voilà. Je deviendrai
force d'étudier le dossier. Ouais.
Peut-être à 80 ans, comme ça, je pourrais faire du conseil. Alors ça, c'est leur dernière sortie. Ils vendraient à des fonds allemands. En fait, en gros, si j'ai bien compris, ce sera des cadres essentiellement d'Airbus, hein, puisqu'à à Toulouse, on a parfois Airbus et compagnie. Enfin, ce sera des cadres de l'aéronautique, de l'armement, hein, puisqu'on oublie que Toulouse, c'est une grande ville de l'armement, du spatial. Donc, d'après eux, il y aura peut-être un volume d'affaires qui serait suffisant pour faire venir pour louer à des gens. On se demande pourquoi, d'ailleurs, parce que je ne sais pas si vous êtes si vous êtes un spécialiste, vous arrivez souvent en avion, hein, plutôt qu'en TER. Donc à la limite, ces gens-là, peut-être qu'ils préféreront être logés près de des endroits où ils vont intervenir que d'avoir... parce que je suppose qu'ils ne vont pas travailler dans à Matabio même. Hein. C'est un ni queue ni tête. Hein. Enfin voilà, je ne prétends pas donner des arguments vraiment de béton, mais ça paraît loufoque. Et il a fait cette déclaration à la Toulouse School of... à Toulouse Business School, hein. Pas
à Toulouse
pas
Business
à
School.
Des spectacles, des opinions, de les voir ainsi cabaler.
Qui avait 1000 mètres carrés de bureaux, et c'est aussi un pari sur le futur, puisque c'est éluder les crises, notamment sanitaires, ou les nouvelles habitudes de travail avec le télétravail, et ça remet en question l'utilité des espaces de bureaux dans ces immeubles coûteux.
Ah oui, oui, c'est un... Ben moi, je vois ce que ça n'existait pas il y a quelques années. Moi, dans mon immeuble, j'ai un jeune, il se rend au bureau une fois par semaine, et il travaille chez lui. Donc le télétravail, ben, il commence à demander des financements d'État pour transformer des bureaux en logements. Il y a une crise spécifique de la défense. Mais là, le modèle est en danger, quoi. Tant mieux, hein, mais c'est... Donc là, ils veulent nous faire un mini-truc, tout ça pour une opération immobilière d'une compagnie qui était loin d'être exemplaire à Nice et même à Toulouse, quoi, déjà.
Mais tu me sers de transition là, avec les financements, parce que nos impôts vont financer les aménagements nécessaires à ce projet d'initiative privée avec l'accessibilité au logement, réfection de la voirie, puisque tout autour du bâtiment, c'est public. Donc ça, c'est à la charge du contribuable
Alors normalement, il doit payer... Alors oui, c'est un peu complexe, parce qu'il doit payer ce qu'on appelle le PUP. C'est un acronyme, hein, j'ai pas retenu. Ouais. C'est projet urbain, participation de projet urbain, quelque chose dans le genre. Par contre, c'est en cas de défaut du projet. Parce que si le projet fait défaut, est lancé et qu'il fait défaut, là, c'est à la puissance publique de reprendre la main, quoi, hein, d'une manière directe ou indirecte. Parce qu'on n'a pas écarté que le projet soit lancé et tombe à l'eau, hein, ce ne sera pas le premier. Hein.
Je ne comprends pas, tombe à l'eau, c'est-à-dire on arrête les travaux
oui,
en cours, c'est ça
Oui, oui, c'est un... Il y a eu le même promoteur, il a... Ce n'est pas un gratte-ciel, mais il a un projet. Il a lancé un projet il y a 6-7 ans à Nice qui s'appelle Iconique. Ils ont eu 2 ans de retard. Il a réussi à s'en sortir d'après ses propres termes parce que l'immobilier à Nice il monte. Voilà, il s'en est sorti comme ça. Mais oui, ce n'est pas le premier projet qui n'est pas rentable, hein, qui est lancé et puis qui n'est pas rentable. Et dans ce cas-là, c'est la mairie qui reprend tout, quoi. Institution publique locale, l'État. Il y a l'exemple de la tour Jean Nouvel à Marseille. En gros, c'est si le projet marche, le promoteur encaisse les profits. Et s'il ne marche pas, c'est la puissance publique qui passe à la caisse, quoi. Alors en plus, ce promoteur, il est quand même spécial. Hein, même s'il nous a conseillé de ne pas bouger une oreille, je vais quand même bouger une oreille. C'est un langage de truand. Hein, c'est un langage de truand. Quand on dit à quelqu'un, si tu ne bouges pas une oreille, ou de flic peut-être, je ne sais pas. Mais,
c'est pareil, souvent pareil.
Bon, je sais pas, je te laisse ta responsabilité. Donc, je vais pas aller jusque là, mais il y a quand même une enquête du parquet national financier avec de mise en examen pour Iconique. Et puis à Toulouse, ils avaient lancé un projet qu'ils n'ont pas réalisé. Alors là, par contre, ils avaient aucun contradicteur. Hein, on s'était pas lancé compte parce que ils l'ont pas fait. Donc c'est quand même une maison qui est pas très crédible, hein. C'est la maison compagnie de Fasbourg. Le promoteur était quand même perquisitionné chez lui, quoi. Moi, ça m'est jamais arrivé, personnellement. Vous me direz, bon, dans certains milieux, si vous n'êtes pas perquisitionné à 50 ans, c'est que vous avez...
T'as pas réussi, ça.
T'as pas réussi ta vie.
Jamais.